Alors ce matin, on poursuit dans notre série sur Corinthiens. Et justement, cette section que Paul est en train d'ouvrir, cette portion de la lettre, elle évoque la question du culte quand on est ensemble. Ce qui se vit lorsque les chrétiens se rassemblent, se réunissent. Et on va voir ce matin une question en rapport avec les hommes et les femmes. La semaine prochaine, on va voir la question de l'attitude avec la scène, avec le repas du Seigneur. Plus tard, c'est la question des dons de l'Esprit, la question de ce qu'on vit ensemble. Et un des éléments qui relie ce que Paul est préoccupé lorsqu'on est ensemble, c'est que les choses se fassent avec ordre, avec convenance, à propos, avec pertinence, et que cela honore et glorifie Dieu. Alors, je vous cache pas que le passage de ce matin était challengeant sur le point culturel. C'est beau de prêcher la parole de manière suivie, de se dire, ben voilà, on n'échappe pas parfois à des textes qui sont compliqués. Quand ma femme a su le texte de ce matin, elle a dit, tu veux pas attendre l'Assemblée Générale, voilà. Après, il y a certains moments comme prédicateur, on dit, ok Seigneur, tu nous demandes à traiter ces textes, c'est merveilleux. Ouvre notre intelligence, ta parole elle est parfaite, ta parole elle est merveilleuse, ta parole elle est sans défaut, sans erreur. Et elle est là pour nous rejoindre aussi, nous, au 21e siècle. Et la difficulté ce matin, c'est comment ce texte laissé par Paul nous rejoint 21, plein de siècles après, pour comprendre un tel passage. Et je voudrais commencer par une illustration. En mai 2017, un certain Morgan Simon a fait involontairement le buzz, enfin voilà, il a fait dans les réseaux, les infos, on en a parlé, lorsqu'il est apparu au centre de tous les médias dans le monde. Alors pourquoi ? Parce que il y avait les élections présidentielles, notre président actuel a été élu pour son premier mandat, et il y a eu un homme, Morgan Simon, vous le voyez, cet homme à la casquette, aux suites, dont le look tranche avec les autres personnes lors de la victoire aux élections. Est-ce que c'était un opportuniste ? Est-ce qu'il avait un message à transmettre avec sa casquette et son suite? Ça a fait le buzz, les journaux en ont parlé, et il a été retrouvé. Il a dit, j'ai été bénévole, j'ai aidé à la mise en place des salles depuis plusieurs congrès de ce parti politique. Ma présence sur la scène, derrière le couple présidentiel, c'est le hasard. Les caméras, ils étaient braqués à ce moment-là. Ils ont proposé, lors de cette victoire, aux gens de monter avec Emmanuel Macron pour chanter la Marseillaise. J'étais là, je suis monté. Il n'y avait personne derrière lui et je me suis mis là sans réfléchir. J'ai pas pensé que j'avais une casquette et un suite. C'est la manière dont je m'habille tous les jours. C'était pas voulu. Il réfute l'idée qu'il aurait tenté de se faire remarquer. C'est vrai, il y a des moments formels où certaines manières d'être peuvent interpeller. Je pense que si on revient aujourd'hui et qu'il avait été derrière une élection de l'autre côté de l'Atlantique, où tous les gens avaient des casquettes et des drapeaux, ça aurait peut-être pas choqué, ça aurait pas dérangé, ça aurait pas interpellé, ça aurait pas attiré l'attention. Hier, j'étais à un mariage. Quand on est à un mariage, on s'habille d'une certaine façon, en tout cas culturellement. Voilà. Le fait d'être en look et en casquette, peut-être dans un stade de foot, ça aurait pas du tout gêné. Ça aurait été peut-être d'ailleurs la manière dont il aurait dû être. Ce serait peut-être la norme. Elle aurait été acceptée. Ça aurait été peut-être même un signe de respect pour l'événement, un supporter, un fervent supporter. Mais là, à ce moment-là, pour une partie des gens français, ça a détonné derrière ce couple présidentiel. Et en fait, on est un peu là dans ce que Paul va nous parler dans ce texte de Corinthiens. Un signe culturel extérieur qui couvre la tête avec un sens très profond, un accessoire et qui a une signification. Mais Paul veut montrer, bien plus que l'accessoire, il veut montrer ce que cela signifie, de ce que cela témoigne ou non des valeurs spirituelles de notre relation avec Dieu. Ce texte soulève un problème dans cette église qu'il y a à Corinthe, et je vous propose d'abord, avant de rentrer dans le texte, de prier simplement. Seigneur, merci parce que ce matin on est là pour, bien évidemment, t'honorer. On est là aussi pour t'écouter, parce que tu veux nous parler. Tu es un Dieu qui vient ouvrir nos cœurs. Ta parole, elle est parfaite et elle a été donnée pour nous enseigner, pour nous encourager. Et c'est vrai ce matin, comme avec le texte, il y a peut-être un effort à faire pour comprendre ce que tu veux nous dire. Mais nous avons ce désir, comme on l'a chanté, de t'honorer, de te rendre gloire, de te mettre à l'honneur. Alors on veut que ta parole nous transforme, on veut que ta parole nous aide, Seigneur, à marcher de manière digne, à marcher de plus en plus en ton honneur et à ta gloire. Et que le monde autour de nous puisse voir que tu es Dieu et que tu es notre Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors je vous propose d'ouvrir nos Bibles et de prendre le texte sous les yeux de 1 Corinthiens 11 et je prendrai les 16 premiers versets. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est la tête de tout homme. L'homme est la tête de la femme. Et Dieu est la tête de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore sa tête. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore sa tête à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-vous-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier sans avoir la tête couverte ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de manteau? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude, et les églises de Dieu non plus. Waouh. Franchement, pas facile. Plusieurs complexités. J'en relèverai trois. Vous l'avez entendu dans la lecture, si vous avez suivi dans le carnet, j'ai pris la liberté de changer certains mots par rapport au texte. J'ai donné le sens littéral, original. Et c'est un texte où il y a plusieurs mots pour comprendre le sens original de ce que Paul voulait dire est compliqué. C'est pas évident. Et certaines de nos Bibles ont fait un choix plutôt qu'un autre. Et ce sont ce mot « tête » qui revient plusieurs fois comme un écho. Il y a débat sur les spécialistes pour se dire qu'est-ce qu'il veut dire. Et j'en ai lu des trucs. Donc ça, c'est premièrement. Il y a plusieurs mots qui prêtent à confusion et aujourd'hui, c'est pas évident. Deuxièmement, l'argumentaire, l'argumentation, la façon dont Paul emploie sa démonstration, c'est pas facile pour nous, lecteurs modernes. Par exemple, que viennent faire les anges ? Qu'est-ce qu'il est dit quand il dit « l'ordre naturel » ? Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, les coutumes dont Paul nous parle ici, je crois, 20 siècles nous séparent et je crois qu'elles sont bien obscures. On n'est ni dans le monde grec, on n'est ni dans un monde romain, encore moins dans un monde juif. Les premières églises qu'on voit dans les Actes notamment, et que l'église de Corinthe est une des premières églises aussi, nous sont en grande partie inconnues. On n'a pas d'autres textes qui nous expliquent ce qui est en train d'être vécu ici dans l'église de Corinthe. Ça ressemble à quoi ces couvre-têtes, dont il est question ici? On n'a pas beaucoup de références culturelles non plus. On a certaines images. Hein. En Occident, on a le voile plus ou moins intégral des musulmans, le hijab hein, qui couvre les cheveux. Bon, un sens culturel, oui, religieux, mais c'est très différent suivant les régions. Et quand vous prenez le temps de vous intéresser d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un peuple à un autre, très différent le sens qu'il y a derrière. Pensez peut-être à ceux qui suivent la famille royale britannique notamment. Vous regardez dans tous les événements, ils ont des chapeaux, avec plein de plumes et tout. Il y a des couvre-chefs lors des événements publics, festifs. Est-ce que c'est de cet ordre-là? Vous connaissez peut-être vos grands-parents, et c'était le cas de mes grands-parents, portaient un châle ou un voile ou de coton, de soie ou voilà, orné de broderies, de motifs. Voilà, il les portait des fois sur les épaules, des fois noué sous le menton, des fois ça tombait gracieusement sur le dos. Ouais, c'était un symbole de confort, de modestie, se protéger du froid. Il travaillait au champ avec. Enfin bref, une tenue des fois du dimanche. Enfin voilà. Mais rien de cet ordre-là. Si on regarde le sens de ce texte-là. Et je crois qu'il faut et qu'il est nécessaire d'avoir de l'humilité face à ce texte, mais aussi de la confiance dans la parole de Dieu. Parce que ce que j'aimerais aussi nous aider à voir ce matin, c'est que autour de tous ces détails, de ce qui peut paraître un peu brumeux, un peu compliqué pour nous, il y a des choses qui sont claires et importantes dans ce texte. Et j'aimerais nous voir ce début de conversation comme quelque chose qui va débuter, de cette réflexion, notamment autour de la distinction entre les hommes et les femmes. C'est précieux d'avoir de tels textes. On va pas tout voir avec un texte. En une demi-heure, on a loin de moi la prétention de voir tout ce que la Bible nous dit sur ce sujet-là. C'est un début. Et ma prière, c'est qu'on progresse dans ce que Dieu veut nous voir vivre en tant qu'hommes et femmes au XXIe siècle. Parce que la grande question autour de ça, c'est comment on vit l'Église ensemble. Comment on vit l'Église ensemble. Et je crois que certains vont rester sur votre faim, parce qu'on va pas le temps d'avoir répondre à toutes les questions. Des livres le font bien plus que je peux le faire. Mais que, voilà, nous ayons de l'humilité et le désir de mieux honorer la parole de Dieu et d'honorer notre Seigneur. Quelques éléments de contexte encore. Vous vous rappelez, l'église de Corinthe se croyait très, très mature. Extrêmement douée. Dieu leur avait donné beaucoup de dons. Une prospérité spirituelle, et on le verra encore dans les textes à venir, une croissance, probablement une église aussi nombreuse, de divers horizons, mais avec plein d'angles morts, avec plein de choses qui étaient des véritables pierres d'achoppement, où Paul a dû déjà à plusieurs reprises mettre le point, montrer que en fait leur attitude était encore pire que ce qu'il y avait en dehors de chez eux. C'est une église où, on est libre, au point où on est tellement libre qu'on en fait trop. Et Paul donne des instructions pour remettre un peu d'ordre. Ruth et moi, on a un arrière-plan identique. On vient de la même église, mon épouse. On a des parents convertis, des parents qui viennent d'un milieu social ouvrier, même contexte social, maman au foyer, même région. Et quand on a fait le choix de nous fréquenter il y a 20 ans, On a fait le constat sur nos familles, sur nos différences entre père et mère. On a un père bosseur, parfois trop absent dans son rôle de leader, de conducteur, des mamans qui avaient trop souvent le dernier mot. On a fait le tour de la question, on a discerné, on a réfléchi et on a dit, il y a des choses qu'on veut reproduire et il y a des choses que la parole de Dieu nous demande peut-être de corriger, qu'on veut travailler. Il y a des choses qu'on veut honorer, il y a des choses qu'on a besoin de progresser. 20 ans plus tard sont passés et je me dis, il y a encore des domaines où j'ai besoin de progresser. On parlait d'honorer ses parents il n'y a pas si longtemps. Ou comme homme de Dieu, comme époux, comme père, comme fils, comme frère, il y a bien des domaines où j'ai besoin de grandir. Et donc venir dans des textes comme celui-ci qui nous présente aussi des éléments comme qui nous demande de nous interroger sur notre manière dont j'honore Dieu. Ben voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner pour être l'homme de Dieu que je suis appelé à être? Seigneur, comment tu m'appelles à être une femme de Dieu comme je suis appelé à l'être? Des frères et des sœurs dans l'église. Et je crois qu'on connaît tous des domaines où le Seigneur nous dit, il y a du boulot encore. Il y a du travail à faire. Où il y a des choses où je suis clairement pas en règle avec le Seigneur. Où il y a des choses où ça le glorifie pas comme ça devrait le glorifier. Et je crois que Dieu, aussi dans des textes comme ce matin, veut nous montrer le travail. Alors que nos cœurs soient disponibles. Voilà comment je résumerais simplement le texte. L'Église est appelée à illustrer la dignité, la diversité de la création de l'humanité en honorant la complémentarité voulue par Dieu, tout en étant attentive aux formes culturelles qu'il exprime. C'est un peu compliqué, mais vous le verrez ce que cela veut dire. La première partie que j'aimerais simplement voir, on est différents. Mais égaux. pour la gloire de Dieu. C'est le verset 1 à 6 à peu près. Et j'aime beaucoup qu'on ait associé ce verset 1, qui peut-être apparaît plus avec ce qui précédait, mais le verset 1 pose le cadre dans lequel s'insère cette réflexion. Depuis plusieurs chapitres, Paul a répondu à des questions autour de la sexualité, autour du mariage, autour du célibat, autour de la consommation de viande sacrifiée aux idoles, autour des relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et qu'est-ce qu'il a mis en avant? Comment a-t-il répondu jusqu'à présent? Un modèle, Christ. Et que lui-même, Paul, a été prêt à endosser. Par amour, je suis prêt plutôt à renoncer à mes droits. Je suis prêt à renoncer à ma liberté pour le privilège, pour le bien de l'autre. Le don de soi, l'abaissement, l'humilité, plutôt que l'affirmation de soi, de ses droits personnels, de cette liberté que le Seigneur m'a donnée. Mais notamment pour gagner l'autre, pour le bien de l'autre, pour son salut. C'est l'autre qui est plus important à l'image de Christ. Et là, c'est contre-culturel, mes amis, et je crois qu'on a besoin de le discerner, c'est contre-culturel où le monde dit « c'est soi qui est important ». Et affirmer que les différences voulues par Dieu viennent embellir l'unité chrétienne, les différences qu'on a entre les... Il n'y a pas besoin d'avoir une harmonie et non la détruire. Christ est l'exemple à suivre. Vous tournez juste une page, hein, verset 23, qui le résume, et le verset 24, « tout m'est permis ». Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'est pas bon. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Voilà le contexte dans lequel Paul nous enseigne. Un modèle d'attitude. Paul est reconnaissant, parce qu'au verset 2, il voit que son enseignement a été accueilli. On ne sait pas tout à fait quoi, parce qu'après, il est en train, verset 3, de les corriger. Quelque chose est mal vécu, en tout cas pour une partie de... l'Église, et Paul est obligé d'intervenir. Et au verset 3, il fonde une phrase choc, un peu on pourrait dire, théologique, qui est pas évident. « Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est la tête de tout homme, l'homme est la tête de la femme, et Dieu est la tête de Christ. » Ouf. Est-ce que cela veut dire que les hommes doivent ouvrir les portes devant les femmes? Est-ce que ça veut dire que les hommes doivent régler l'addition au restaurant? Est-ce que ça veut dire que les femmes et les enfants sont prioritaires pour monter dans le canot de sauvetage? Est-ce que cela veut dire que seuls les hommes doivent être des PDG, doivent s'engager dans l'armée, doivent conduire une nation? Ce texte ne répond pas à cette question. La parole de Dieu ne répond pas à cette question, ni dans un sens, ni dans l'autre. Paul poursuit au verset 4 et 5, que tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore sa tête. Toute femme qui, au contraire, qui prie ou prophétise la tête non couverte déshonore sa tête. C'est comme si elle était rasée. Alors, quand on lit ça, on se dit, bon, voilà, ils font quelque chose, l'un fait quelque chose et l'autre fait l'inverse, et tous les deux, ils déshonorent quelque part une tête, quelque chose qui a l'air au-dessus. Alors, sans rentrer dans le sens du mot tête, ou l'expression, qu'est-ce que ça veut dire, se couvrir ou non la tête, ou de relever le problème que soulève ici, on lit et on peut dire une chose positive, c'est une église qui est réunie, hommes et femmes ensemble. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient et prophétisent ensemble. 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 Et ça, mes amis, c'est une révolution culturelle pour Corinthe, qui est en train d'être vécue par cette Église. Cette liberté qui est accordée par l'Évangile, par la reçue de Jésus dans la vie, ça donne une liberté où hommes et femmes peuvent être ensemble. Il n'y a plus de parvis pour un homme, il n'y a plus de parvis pour les femmes. Tout le monde est ensemble. Et on le voit dans le livre des Actes, où c'est même les familles, c'est les maisons qui sont ouvertes, où tout le monde, ils prient et font des prophéties ensemble. Alors on pourrait se poser, je fais une petite parenthèse, que c'est la prophétie, ça vous permet aussi d'être clair. En fait, la prophétie, c'est chercher à être à l'écoute de Dieu, de l'Esprit de Dieu, et c'est adresser quelque part une exhortation au nom de Dieu aux autres. Alors il y a une distinction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais voilà, c'est pas le sujet ce matin. Mais on pourrait dire qu'une prophétie, c'est quelque chose qui exhorte, qui nous encourage, qui parle au cœur, qui remet peut-être en question, qui nous interpelle, qui nous encourage, qui nous console, qui met en lumière les secrets de nos cœurs. Et je pense qu'une prophétie, ça pourrait être, par exemple, ce que Matthieu nous a dit tout à l'heure en lisant un texte, ce que Hubert nous a partagé. Il nous a adressé des choses au nom de Dieu. Ce que Thierry nous a partagé. Une situation personnelle. Et voilà ce que je vis avec le Seigneur et ce que vous faites. Le soutien que vous êtes pour moi. Vous rappelez peut-être, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, Wendy nous a partagé un peu ce qu'elle vivait en tant que missionnaire, et vous rappelez, elle a lu un texte biblique et elle a exprimé comme une vérité qui l'encourageait, et c'était comme une exhortation, comme une prophétie qui est faite, qui est donnée pour nous, et qu'on peut prendre, et qu'on peut nourrir notre âme. C'est ça une exhortation. Donc tout le monde est ensemble, il y a des prises de parole les uns avec les autres, les hommes et les femmes. On pourrait rajouter, quand on connaît le contexte, les juifs et les non-juifs, les grecs, les romains, les esclaves, les hommes libres, ceux qui sont instruits, ceux qui ne le sont pas, sont ensemble et honorent Dieu. Ensemble et rendent un culte à Dieu. Hommes et femmes sont égaux. La Bible est claire. Face à l'évangile, face à l'œuvre de la croix, chacun reçoit la vie éternelle. On est co-héritier. On est revêtu de dons. Et donc dans l'Église, on est censé percevoir, voir ce climat où on est ensemble, de toute génération, à la gloire de Dieu, co-héritiers, hommes et femmes, frères et sœurs. Et c'est ce que dit Paul depuis le début de la lettre. Pourquoi faire des distinctions? Pourquoi dire que lui, il est plus grand qu'un tel? Non. Christ nous met sous le pied d'égalité. On a tous besoin de la grâce, une liberté nouvelle en Christ. Mais, et c'est le problème de l'Église de Corinthe, dans cette liberté, ils y vont un peu trop loin. Et on le voit déjà quand on a parcouru cette lettre. On est appelé à être différent, mais pas n'importe comment. Et c'est ce que Paul nous dit au verset 3, il y a une distinction. Il y a certaines formes, il y a certains rôles que Dieu accorde à l'un et pas à l'autre, ou à l'autre, pardon. Mais jamais ce n'est une hiérarchie de valeurs. Il y a une distinction dans le rôle, dans le leadership. Paul nous montre qu'il y a a priori quelque chose d'un lien d'autorité, de soumission entre Christ et l'homme, entre l'homme et la femme. Est-ce que c'est toutes les femmes? Bref, la question est ouverte. Entre Dieu et Christ. Mes amis, il y a une distinction voulue et bonne depuis la création. De la même manière qu'il y a une distinction entre Dieu, le Père et Jésus-Christ. Égaux en dignité. Père, Fils et Saint-Esprit sont identiques, mais ils sont pas équivalents. Ils sont pas interchangeables. C'est pas juste Dieu qui change de costume. Jésus-Christ est pleinement Dieu, pleinement éternel, égal à Dieu en pouvoir, en gloire, en dignité, mais il a un rôle et une soumission qui est distinct. On le voit lorsqu'il est sur terre. Il a été soumis, il a été envoyé par Dieu, il a obéi de son plein gré à la volonté de son Père. Et notre Seigneur Jésus-Christ a parfaitement autorité parce qu'il a parfaitement montré sa soumission, son humilité, son obéissance à la volonté de son Père. Et là, dans l'Église, Paul est en train de rappeler cela. Attention, attention. Des rôles différents, des autorités différentes, des soumissions différentes. Les hommes et les femmes se distinguent les uns des autres. Parce qu'ils reflètent aussi ces rapports différents entre Dieu et son Fils, entre le Fils et le Saint-Esprit, etc. Alors c'est vrai que le mot « tête », littéralement, dans notre texte, c'est le mot « tête », c'est pas facile. Certaines traductions, et la traduction que vous avez sous les yeux pour la plupart, a mis chef par endroit, vous l'avez vu. Hein. Qu'est-ce que voulait dire Paul exactement? Il y a deux directions principalement qui sont données. Certains évoquent l'idée plutôt de source ou d'origine, comme pour dire que dans le sens créationnel, la femme a été tirée de l'homme dans le sens premier, dans le sens source, c'est pas évident à comprendre. Donc ça, il y a pas mal de défenses là-dessus. Mais un des sens qui me semble, à ma lecture et à mon interprétation aujourd'hui, le plus naturel, littéral, c'est l'idée comme la tête qui est le sommet du corps, comme la tête qui est le sommet d'une colonne en architecture, ou dans le symbole comme l'exercice d'une autorité. On sait qu'il y a une tête, celui qui exerce l'autorité. D'ailleurs, c'est le sens que Paul donne généralement dans bien d'autres endroits. Et vous avez par exemple le texte 5:23 qui parle de ces relations entre les hommes et la femme, car l'homme est la tête de la femme comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et là, on comprend qu'il y a une notion d'autorité. Ruth et moi, on est entrés en alliance, je le disais tout à l'heure, il y a 20 ans, on s'est mariés, qu'on appelle le mariage, et Dieu me dit dans sa parole de façon assez claire que je suis appelé à jouer un rôle de tête. Ça veut dire quoi? Premier de cordée, j'en sais rien, de chef dans mon foyer, ouais. Quelque chose comme ça. Dieu me dit que je dois prendre l'initiative dans mon leadership. Mais comme on le voit ici aussi, Dieu me dit que je suis très très incomplet sans mon épouse, si je ne le fais pas en complicité avec elle. Et si j'oublie surtout que je suis moi-même soumis à une autre autorité. Je ne peux pas agir comme je l'entends. Et c'est pour ça, rappelez-vous le contexte. Je suis soumis à qui? À Christ. Et je crois que beaucoup de choses, si on réfléchit ce premier truc, je suis soumis à Christ, à sa parole, à ce qu'il est, à ce qu'il fait, ben ça change tout. et ça doit m'interpeller aussi dans mon comportement que je peux avoir avec mon épouse, que je peux comportement avec chacun d'entre vous. Donc oui, il y a certaines formes, certains rôles que Dieu a réservés, que Dieu a décidé ainsi. On en a parlé, la question d'autorité, hein, l'année passée, lorsqu'il y a, la parole nous dit qu'il y a certains hommes dans l'Église qui sont appelés à être pasteurs, anciens, bergers. La parole nous dit qu'on est appelé à se soumettre les uns et les autres. Alors donc, comme moi, comme pasteur, comme berger, si vous percevez de moi que je suis ce chef tyran, ce petit pape dans l'Église, ça fait 8 ans que je suis là, hein, celui qui fait la pluie et le beau temps, je pourrais vous dire, mettez-moi sous discipline, parce que c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Chassez-moi de grâce. Parce que je suis pas censé être perçu comme ça. Je suis appelé à être, quoi, serviteur de chacun d'entre vous. C'est pas parce que je porte pas un titre. Je suis appelé à incarner, comme Christ, une attitude. Et il y a une différence dans ce texte, on le voit dans, entre le rôle et la femme, l'homme et la femme, pardon. Et elle est bonne, et elle est visible dans la personne de Dieu. Je suis conscient que j'effleure juste le sujet. Et Paul le montre parce qu'elle a été voulue et posée dès la création. Et c'est Paul pose à plusieurs reprises, lorsqu'il parle de l'homme et de la femme, il va toujours revenir à la création initiale du Créateur avec l'homme et la femme. Et là, à Corinthe, on a ce rejet de cette distinction. Paul nous dit que dans l'église de Corinthe, dans leur attitude de tête couverte ou pas, ils manifestent, ils jettent le discrédit sur cette distinction. Il jette le doute, il jette le déshonneur. Paradoxalement, je le disais tout à l'heure, chacun fait ce que l'autre était censé faire. Ils se déshonoraient mutuellement, ils déshonoraient celui auquel ils devaient rendre gloire. Alors la question, on pourrait se dire, mais ça signifie quoi cette tête couverte? Parce qu'il y a nulle part écrit voile, hein. Vous avez peut-être un endroit où c'est écrit voile, mais c'est, je l'ai traduit aussi par manteau. Il n'y a pas écrit voile, alors quand on est chrétien, on pense au voile, voilà. C'est l'interprétation qu'on en fait. L'importance que Paul veut nous montrer, c'est ce que cela symbolise. Est-ce que c'était un vêtement? Est-ce que c'était une coiffure? Est-ce que c'était un état d'esprit? Voilà, beaucoup d'énergie sont employées pour tous les commentateurs sur ce texte pour essayer de donner un sens ou un autre. Mais un élément qui m'a interpellé, c'est que les recherches en histoire sur cette période font souvent penser l'interprétation comme un accessoire, un couvre-chef que portaient les femmes mariées. Une femme mariée romaine, respectable, honorable, avait la tête couverte, soit par le bout de son vêtement, soit par un voile, et cela lui servait de protection contre les avances masculines. Elle était sous la loi romaine protégée. Elle montrait par ce signe, elle manifestait aux autres autour d'elle qu'elle était une femme mariée, qu'elle était liée à un homme par le lien du mariage. Et il y avait un sens culturel de respect, d'honneur qui n'échappait à personne. C'était compris comme cela, on voyait une femme comme cela, de respect. Et d'ailleurs, les femmes de Corinthe étaient portées un voile, c'était un signe. Elles avaient des coiffures notamment aussi très sophistiquées. Et on le sait aussi dans Corinthe, on l'évoquait dans la culture de Corinthe, les cheveux lâchés au vent faisaient référence à soit à la jeune fille qui était libre, à l'esclave, ou souvent au lien avec la prostitution sacrée dans le temple, où voilà, on montrait ça comme cette liberté sexuelle, une transcendance. Ça voulait dire dans le monde culturel romain. Et là, Paul, dans l'Église, montre que, en fait, ils ont une liberté telle qu'il montre qu'ils se rendent libres même de ces signes culturels extérieurs de leur société pour montrer, ben voilà, on est libre, il n'y a plus homme ni femme, même notre corps, on fait ce qu'on en veut. Au point où Paul est dit, oh, regardez, en fait, votre culte ensemble, et même pire, enfin, on pourrait dire, et pire, donne un désordre, pire que peut-être le temple d'Aphrodite à côté. Qu'est-ce que vous donnez comme témoignage? Je le disais, hein, beaucoup de chrétiens corinthes ne donnaient pas de l'importance au corps. Ils ne mettaient même pas cette différence entre la sexuelle. Ils faisaient n'importe quoi. Et on le dit, même les hommes étaient prêts à continuer les rapports avec les prostituées sacrées. Et on le voit dans notre texte, un des éléments fondamentaux, c'est quoi? C'est la question de la gloire de Dieu lorsqu'on est rassemblé. Où est-ce qu'on jette le déshonneur sur nos relations? Le déshonneur sur notre Dieu. Et il le fait au point d'aller sur l'ironie. Mais si vous voulez autant aller, rasez-vous la tête, les femmes. Jetez le déshonneur sur notre Créateur. Relisez Genèse, relisez ce dysfonctionnement entre nous, de l'homme et de la femme, où on veut toujours rejeter, où on veut toujours chercher des choses, on veut balader tout ce que Dieu a voulu et créé de bon. Et on est dans une culture un peu comme ça où, voilà, il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme. Aucune distinction. Et c'est vrai qu'on hérite de plusieurs siècles d'abus. D'abus. Qui a conduit à l'émancipation des femmes. Pour dire qu'il n'y a plus ni homme ni femme, on est égaux. La conséquence dont les médias nous font écho, c'est que les hommes deviennent passifs, prennent plus l'initiative, plus de leadership, plus de conducteurs, et on peut le dire aussi dans nos églises spirituelles, on n'est plus des modèles dans nos foyers, on surréagit, on domine ou on écrase, et aujourd'hui on a aussi le contrebalancier, où on veut affirmer la masculinité, où on demande à la femme de retourner derrière les fourneaux, on pourrait dire, l'entretien de la famille et qui doit s'apprêter pour son mari quand il rentre du travail. On a aussi cette tendance-là dans notre monde actuel, et notamment en Occident, où la virilité doit se montrer. Et c'est ce que Paul est en train de dire, vous faites n'importe quoi. Et notre rôle en tant qu'Église, lorsqu'on est rassemblé, c'est de se dire non, Dieu a fait des choses belles, l'homme, la femme, et on doit les honorer. On est semblable, oui, on est égaux face à la grâce, mais on n'est pas équivalent. Et c'est ce qui m'amène à mon deuxième point, on est complémentaires pour la gloire de Dieu. Et Paul poursuit avec un argumentaire d'ordre créationnel. L'homme est la gloire de Dieu et la femme est la gloire de l'homme. Loin de moi de dire qu'il y a une infériorité, c'est pas ce que le texte nous dit, mais qu'on est complémentaires. Ruth, mon épouse, est ma gloire. Elle est ma gloire, ce n'est pas moi sa gloire, c'est elle qui fait ma gloire. Bon, ça a l'air beau de lire cela comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma manière de prendre soin d'elle, ma manière de l'honorer, ma manière de la présenter devrait refléter cela. Parce que Dieu m'a regardé et a dit, toi, on te laissera pas célibataire. J'avais besoin de mon épouse. C'est ce que Paul nous dit. Il y a une différence d'homme et de femme. C'est une réalité, elle est bonne, elle est voulue par Dieu. Il va faire référence à Genèse 2, notamment, où l'Éternel dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide. Pas facile, hein? Homme puis femme, il a été créé. Tous deux ont été créés à l'image de Dieu. Mais pourquoi la femme a la gloire de l'homme? Parce qu'elle a été tirée de lui. Parce qu'elle a été faite pour lui. Dieu a créé une aide à l'homme semblable à lui. Une aide semblable. Et c'est pas évident à comprendre. Et là, on le lit avec nos lunettes modernes. Vous savez, moi, j'ai été... Qu'est-ce qu'on met derrière aide? Je sais pas, bonne question. Un de mes premiers emplois, c'était ouvrier en chaudronnerie. J'étais l'aide d'une équipe d'ouvriers chaudronniers. Il y avait un chef. Il y avait quelqu'un en commande. Et j'avais un travail d'aide. Balayer les salissures, chercher du matériel ici et là, meuler une mauvaise bavure des soudeurs, etc. J'étais une aide, mais j'étais pas semblable à lui, à ce chef, à ses ouvriers. Et dans l'écriture, il est dit une aide semblable à l'homme. Et ces mots hébreux qui sont utilisés sont souvent employés, et je crois qu'on a besoin dans le contexte de nous le rappeler, que Dieu est une aide. C'est le même mot. Quand Dieu dit « je suis une aide pour l'homme », c'est le même mot. Alors est-ce qu'il y aurait quelque chose de déshonorant, de dégradant? Quand on pense aide, pensez grand. Dieu est une aide. Wow. Pensez à co-héritier. On hérite ensemble de la vie éternelle. Dieu est bon. Et c'est ce que Dieu a dit lorsqu'il m'a regardé. Il a dit « écoute, tu vas avoir besoin dans ta vie de quelqu'un. » Et il l'a donné. « Mon épouse ». On est différent. Et je me suis dit, en préparant ce message, en vivant cette semaine un peu turbulente à droite et à gauche, je me suis dit, merci Seigneur pour l'épouse que tu as placée à mes côtés, qui me permet de servir comme je peux le faire aujourd'hui. Je suis littéralement incomplet sans mon épouse. Je serais incapable de faire tout ce que je fais si Dieu ne me l'avait pas placée à mes côtés. Et on avait vu, avec Paul, que lui, son appel, c'était de vivre sans. Il avait dit, je n'aurais jamais pu faire tout ce que je fais si j'avais été accompagné d'une épouse. Servir ensemble. Il y a une qualité qui sont uniques à chacun des deux. Et voyez-vous, la chute, c'est ça, c'est ce rejet de ces différences. Et il y avait, c'était le bins dans cette église-là. Et c'est ça que Paul est en train de faire allusion. Il est en train de parler de couples mariés dans l'église et qui sont appelés à refléter. Il y a une distinction de rôle, mais ça ne diminue pas l'identité. Moi qui suis pasteur devant vous et qui ouvre la parole de Dieu, j'ai pas plus de valeur aux yeux de Dieu que vous, que le jeune qui rentre dans mon bureau pour partager son cheminement. On a une responsabilité, oui. Et la Bible va même encore plus loin. Jésus dit que nombreux les derniers seront les premiers. Ça renverse nos valeurs. Alors pourquoi vouloir s'élever? Certains vont avoir beaucoup plus d'honneur devant Dieu que toi et moi. Notre rôle ne définit pas notre valeur. Je dois honorer un policier qui passe. Absolument. Il a une figure d'autorité. Est-ce qu'il a plus de valeur que moi ? Non, pas du tout. Et pourtant, je dois lui manifester du respect. Et là, je suis même pas encore en train de dire par rapport à son comportement, parce qu'on sait aussi qu'il y en a certains qui abusent de leur comportement. On pourrait trouver dans notre pays notamment aussi, on pourrait dire que nos autorités sont incompétentes, on pourrait le dire, loin de moi cette pensée, ou ils sont complètement dépassés. Mais la parole de Dieu nous appelle à quoi ? À avoir du respect pour nos autorités et à prier pour eux. Les Écritures, la parole de Dieu est claire sur ce sujet-là. De pas ne manquer de respect aux autorités. Et c'est ce que Paul est en train de dire, ne manquez pas de respect autour des autorités qui vous ont été confiées. Et la première, c'est Christ. C'est Christ. Tu es disciple du Seigneur. Tu es là pour t'abaisser, pour l'honorer et aimer ton prochain. Tes distinctions ne doivent pas être une raison pour te mettre en avant. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire, à vivre dans l'Église. Et là, à Corinthe, je le disais, les hommes et les femmes s'émancipent. Voilà. Les femmes prient en public, les femmes prophétisent, les hommes le font, mais ils le font en déshonorant cette autorité. Et il y a des tensions. On ne sait pas comment ça s'est manifesté, mais Paul est obligé de rappeler, n'oubliez pas, Dieu a voulu cela. Ne dissociez pas ce que Dieu fait de votre corps. Ne dissociez pas votre identité de ce que vous êtes en Christ. Et la semaine prochaine, on verra qu'ils prenaient le repas et qu'ils étaient ivres. Que vous mangez, que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Que dans votre identité, en tant qu'homme ou femme, vous fassiez tout pour la gloire de Dieu. Voilà ce que l'Église est appelée à être. C'est quelque chose de beau pour l'honneur de Dieu. J'aimerais simplement relever le verset 10 qui peut prêter à confusion. Je ne vais pas m'étendre sur cette question des références aux anges. Faites-le devant les anges, des commentaires existent. Mais parmi les hypothèses qui retiennent mon attention et qui montrent le côté d'être à la gloire de Dieu, c'est que Paul considérait souvent dans ses écrits, et notamment aussi l'Apocalypse, que lorsqu'on est rassemblé et lorsqu'on rend un culte ensemble à Dieu, les anges sont participants. Sont présents. Les lieux célestes se réjouissent, rendent un culte aussi à Dieu. Et donc, quelque part, lorsqu'on est rassemblé, quand on honore Dieu, on est associé aux anges. Donc, si nous, on fait n'importe quoi, les anges sont témoins de ce qu'on fait, de n'importe quoi. Je vais pas aller au-delà. Versets 11 et 12, Paul est sensible et va équilibrer cette interdépendance. Toutes choses viennent de Dieu. Et donc, j'ai pas beaucoup parlé de ce que cette tête couverte signifie. Qu'est-ce qu'on en fait? Et j'aimerais laisser comme un troisième point, comme un signe pour la gloire de Dieu. Un collègue a donné cette expression, l'Église n'est pas un lieu pour une révolution culturelle, où on balaye toutes les conventions pratiques, lisibles dans notre société. L'Évangile renverse bien des choses. L'amour de Dieu pour nous, ça change tout. Ça rétablit tellement de choses qui sont cassées entre nous. Elle nous permet de nous aimer les uns les autres. Ça, c'est l'Évangile, c'est l'amour de Dieu. Et on veut y travailler avec son aide, on veut s'aimer les uns les autres. Et c'est la révolution qu'on est appelé à faire, c'est à nous aimer. Et à baisser les armes, et à voir l'autre plus grand. C'est ça notre liberté. On se réclame tous de la même œuvre de grâce, d'avoir été pardonné. Chacun a besoin de Christ. Il nous restaure dans notre identité en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant que tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut-être fait un peu la difficulté, parce qu'en fait, on vient d'univers différents, on pourrait presque dire. Et on vient d'univers tellement différents, et aujourd'hui, on a tous la parole devant Dieu, on peut se rassembler, des gens qui ont été instruits, des gens, non pas des gens romains, on n'est pas romains. Vous comprenez? C'est compliqué d'avancer ensemble, mais on a tous besoin de la grâce, on a besoin de Dieu. Toi et moi, on est co-héritiers. Si t'as en foi en Jésus-Christ, tu as autant de valeur, de dignité que chacun d'entre nous. Et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Alors pourquoi voulez-vous faire du désordre, d'une liberté qui s'affranchit de tout? Il y a des attitudes, il y a des choix qui doivent manifester, refléter notre identité de rendre gloire à Dieu. On peut pas laisser faire, on ne peut pas laisser dire n'importe quoi quand on est ensemble. Est-il convenable, vous pensez, de faire ça et ça ici? alors qu'on veut glorifier, honorer Dieu. J'ai mis signe, mais on aurait pu mettre l'idée de décorum. C'est un mot un peu romain, on pourrait dire d'ailleurs, mais c'est décorum, c'est un ensemble de règles ou de comportements qui sont appropriés, considérés comme appropriés, respectueux, conformes aux conventions sociales dans une situation donnée. Et Paul nous dit, il y a une distinction dans la société romaine entre l'homme et la femme qui est visible dans la société et qui doit être aussi la vôtre visible. Vous n'arrivez pas dans un endroit où vous allez nier la biologie, où vous allez tout rejeter. Dieu nous a créé ainsi. Il y a un ordre, on l'a déjà dit, par le lien du mariage notamment. On est là pour rendre un culte à Dieu. Alors si tu es une épouse, tu devrais manifester que tu es une épouse et honorer ton mari, et cela devrait se sentir, se voir. Et c'est ce que dit Paul ici, ta tête devait être couverte. Bon, mais c'était l'argument culturel lorsqu'il dit cela. L'ordre était visible dans l'Église. Il y avait un décorum, il y avait quelque chose qui se faisait et qui montrait aux yeux des autres qu'en fait il y avait du respect les uns avec les autres. On peut pas tout se défaire de tous les codes culturels. Non, l'Église, elle n'est pas là pour ça, pour renverser tout. L'Église doit être un endroit où quand je te vois arriver, je devrais dire, c'est un homme, c'est une femme. Et tous les deux, on désire honorer, rendre gloire à Dieu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit porter le voile? Si ton interprétation de 1 Corinthiens 11 et ta conscience t'amènent à le croire, fais-le. Tu ne désobéis pas à la parole de Dieu. Mais personnellement, et c'est aussi la position de l'Église, je n'aboutis pas à cette conclusion. Parce qu'il est difficile d'appliquer ce texte dans notre culture occidentale. La tête couverte chez nous en France ne veut pas dire cette soumission mutuelle qu'on est sous voilà un régime marital, il y a un homme et femme. Ça dit rien du tout. Si mon épouse vient avec un mâle, ça veut pas dire qu'elle est mariée. Aujourd'hui, on a une bague, on a un nom, on porte un nom, il y a plusieurs choses. Ça marche pas culturellement, il y a pas de sens en tout cas. Et d'ailleurs le voile aujourd'hui, on a plutôt en tête l'exact contraire, à cause de cette culture musulmane, hein, c'est pas le rapport d'une autorité qui s'exerce au sein d'une relation où chacun est égaux, digne, non, et c'est plutôt l'idée d'une soumission écrasée. Donc quand on l'entend dans les médias, le voile est plutôt le symbole de l'opposé de ce que Christ est en train de nous dire sur la dignité de l'homme et de la femme. Mais dans notre culture, on n'a aucun vêtement qui va dire « ça c'est l'attitude qui va montrer que tu respectes ton mari et que tu l'honores, que t'es mariée, que tu es heureuse de l'être et qu'il y a une protection quelque part ». Paul ne s'inquiète pas de faire un abus de symbole, mais le problème, c'est l'idée du comportement. Qu'est-ce que vous êtes en train de véhiculer par la manière où montrer le désordre? En fait, on devrait se demander, en fait, à la lecture de cela, si nos comportements, j'oserais dire nos apparences, on pourrait parler de vêtements, de notre tenue, que l'on porte quand on se retrouve, est-ce que ça montre qu'on a envie d'honorer Dieu? On peut se dire, oui, Dieu, on sait, Dieu regarde à nos cœurs. On sait. Et heureusement qu'il regarde à nos cœurs. Mais pour autant, qu'est-ce que je lui montre? Moi, je suis libre. Je peux faire ce que je veux. Si je m'habille ainsi, qu'importe ce que l'autre pense. Bof. Ou peut-être que mon t-shirt avec mon slogan, mon vêtement un peu suggestif, un peu trop sexy, mon décolleté, etc. Qu'est-ce que va penser celui qui est devant, derrière, à côté de moi? Est-ce que ça va l'aider à relever les yeux vers le Dieu créateur, le Dieu souverain, le Dieu qui a toute autorité, le Dieu, on a chanté trois fois saint? Que vont penser les autres? Que vont penser nos aînés? Que vont penser ceux qui sont d'une autre culture, d'une autre église? Est-ce que ça va être une source d'honneur ou de déshonneur? Et c'est ce que Paul est en train de dire. Est-ce que la manière dont on est, la manière dont on célèbre notre culte est une source d'honneur ou de déshonneur envers Dieu? Pour nous-mêmes, bien évidemment, pour celui qui a autorité, Christ, peut-être pour notre mari, est-ce que dans notre manière d'être, je déshonore mon mari? Est-ce que je discrédite les rôles et cette différenciation que Dieu nous a attribués? Plein de questions, hein, ça soulève. Je me rappelle, j'étais stagiaire, et j'étais invité sur Paris à prêcher dans une église multiculturelle. Et voilà, on était en train de réfléchir pour choisir une église. Et le pasteur, il me dit, écoute, ben voilà, je veux bien que tu prêches à l'église, mais j'aimerais que tu mettes une cravate et un costard. Parce que si tu prêches sans, pour une partie culturellement, ça va être un choc. Ils vont pas t'écouter. Ils vont te discréditer. Je me dis, bon, est-ce que ça change quelque chose? Mais oui, je le fais par respect pour cette église qui disait que cette façon d'être, cette façon de, voilà, de montrer une certaine dignité, une certaine respectabilité par rapport à la parole de Dieu, voilà, c'était une façon de, en tout cas, de se présenter devant un public de cadres, de banquiers, de etc., de gens de nations différentes où ils s'attendent à ce que on soit dans l'habit du dimanche, quoi. Je disais tout à l'heure, mes parents, cadres ouvriers, quand ils se préparaient pour le dimanche, c'était l'habit, voilà, c'était l'habit. Les souliers, ils brillaient parce que c'était le rendre l'honneur à Dieu. Ils avaient une occasion de montrer qu'en fait, qu'est-ce qui était important? C'était Dieu. Est-ce que Dieu, on rend l'honneur? Et c'est vrai que chaque culture, et c'est ici culturellement, chaque culture a ses codes de se dire, ça c'est respect, ça c'est... Ouais. Notre code n'est pas un voile, en tout cas, j'ai pas l'impression. Mais ça demande à être attentifs les uns aux autres. Ok, notre culture ici, elle est comme ça, à Wittenheim. On pourrait s'interroger. C'est ce qu'on évoque depuis quelques semaines. Hein. Il y a des choses qui, pour moi, ne me dérangent pas, qui ne me semblent pas du tout importantes, et qui, pour l'autre, sera « Ouh, ça devrait être comme ça. Ça choquerait. » Il y a des choses que je peux pas faire en tant que responsable, parce que peut-être je nuirais à ma position. Cela ne servirait pas mon ministère. Ma prière est que ce matin, on apprenne à devenir mature et se dire, mais voilà, est-ce qu'on est en train d'honorer Dieu? Est-ce qu'on est, on montre qu'on est égaux en dignité? En même temps, on n'est pas équivalent. On a certains comportements, certaines pratiques vestimentaires, on veut pas jeter le discrédit sur notre Dieu, Dieu qui est trois fois saint. Et on veut le servir ensemble. Et on est là pour refléter la perfection de notre Dieu. En fait, l'église, c'est là au plus près où les gens vont voir le royaume de Dieu. Les gens, quand ils vont venir ici, devraient voir qu'en fait, là, il y a quelque chose qui se passe. Quand toi, tu vas travailler dans ton quartier, dans ton voisinage, ou au travail, tu reflètes le royaume de Dieu parce que tu es revêtu du Saint-Esprit, qui reconnaît une valeur à l'homme et à la femme. Et en fait, quand les gens devraient nous voir assemblés et adorés, et c'est ce que Paul est en train de soulever, ils devraient se dire, ouais, il y a quelque chose ici où on voit des jeunes et des moins jeunes, des gens de cultures différentes, d'histoires personnelles, qui honorent ensemble Dieu et qui sont heureux de l'être, et qui prennent soin, ils doivent sentir ce parfum. Au point où ça devrait peut-être être désagréable. Je suis pas à l'usine où on est en train de colporter ou de commérer l'un envers l'autre. Il y a un amour, une liberté, une fraternité, un soin les uns avec les autres. On est une famille de cultures différentes, mais on veut honorer notre Seigneur. Et ça ne doit pas être le désordre. On devrait en train de nous voir servir ensemble avec joie, de louer ensemble, et les gens devraient le percevoir, dans notre attitude, dans notre respect mutuel les uns avec les autres. Il y a quelque chose de spécial qui se passe lorsqu'on se rassemble ensemble. Et c'est ce que le texte veut nous dire de Paul. Il y a une richesse créationnelle et on doit le célébrer. On est appelé à briller. Et ma prière pour les semaines, les mois, les années à venir, c'est que notre Église puisse briller, puisse être différente de notre culture, en respectant les uns et les autres, en respectant nos différences. Elle sera beaucoup plus belle parce qu'on a Dieu, notre Créateur, qu'on veut relever et mettre en avant. Nous voulons être une assemblée qui honore et glorifie notre Créateur.